Mage, écoute.
La vision est pleine.
C'est de tout entendre.
H-1000 vous propose de regarder la nature et la montagne avec vos oreilles. Durant 30 minutes, votre radio va déambuler par les chemins.
Bon, mais dans ce cas-là, ça serait carrément l'idée de marcher, je sais pas, 30-40 minutes et prospecter une à deux zones hydro au-dessus, quoi. Puisque ça, on l'a pas fait.
H-1000, au cœur du parc national des Pyrénées.
Ça, c'est la 460.
À la recherche du Desman.
Vous êtes en train de vous préparer.
En train de s'équiper.
Et le Desman, en quelques mots, pour les auditeurs et nos auditrices, c'est un animal particulier, n'est-ce pas?
Bah, du coup, c'est une espèce très importante pour nous dans les Pyrénées. C'est une espèce endémique. Endémique des Pyrénées et du quart nord-ouest de la péninsule ibérique. Donc on le retrouve en Espagne, au nord du Portugal. Et c'est une espèce typique de nos rivières pyrénéennes.
Et pourquoi vous faites cette recherche de la répartition de la population du Desman? Est-il en danger?
Oui, alors le Desman, c'est une espèce en danger, classée en danger depuis 2021, en danger d'extinction, classée donc par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une espèce pour laquelle on estime qu'il y a une régression d'au moins 60% depuis 25 ans. Donc une espèce vraiment en danger. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'actualiser la connaissance sur le territoire du parc national, mais pas que, puisque ce travail il est réalisé à l'échelle des Pyrénées. Et donc, 10 ans après les derniers inventaires, on revient sur les cours d'eau et on évalue sa répartition, voir si la régression est toujours confirmée ou pas.
Et pouvez-vous le décrire succinctement, le Desman?
Oui, alors le Desman, c'est une espèce très caractéristique. En fait, c'est un cousin de la taupe. Il fait partie de la famille des Talpidés. Mais par contre, de manière très schématique, on pourrait dire que c'est un rat avec une trompe. Donc c'est pour ça que communément, dans les Pyrénées, notamment les enfants, l'appellent le rat trompette. Et d'un point de vue morphologie, donc, c'est une espèce qui fait à peu près 20 cm, dont la moitié pour la queue. Et vraiment, voilà, ce qui le caractérise, c'est cette trompe, grande trompe. Et derrière, quand on a la chance de le voir en cours d'eau, le Desman, en fait, c'est comme une torpille, un animal qui va rechercher la nourriture au fond des cours d'eau, dans le substrat, il va manger des insectes. Et donc, en fait, c'est une vraie torpille, une bestiole très énergique, qui vraiment virevolte dans le cours d'eau, qui remue le substrat. Donc, quand on a la chance de voir le Desman, c'est la première impression que ça donne.
Et vous l'aimez, cet animal? Vous avez un lien particulier?
Mais moi, en tant que Pyrénéen, moi, je suis originaire du Pays Basque. Donc j'ai un attachement particulier pour le Desman, puisque historiquement c'était une espèce qu'on retrouvait du niveau de la mer, donc on le retrouvait même à Saint-Pé, jusqu'en haute montagne, dans le parc notamment. Et notamment au Pays Basque, c'est une espèce où on a très rapidement vu une régression, puisque sur les parties basses, dans le Piémont, en plaine et dans le Piémont, on ne le voit quasiment plus. Et aujourd'hui, finalement, la zone de montagne sert de refuge. Donc maintenant que je travaille au Parc National des Pyrénées, oui, pour moi, c'est une espèce pour laquelle j'ai un attachement tout particulier.
Et justement, pensez-vous, alors là on sort un peu du cadre du Desman, pensez-vous que la montagne est l'un des derniers sanctuaires du sauvage, du monde sauvage en France?
Ben clairement ça, on le voit, hein. On le voit avec la nécessité aujourd'hui de préserver des espaces, on le voit nous sur le territoire du parc, la chance de vivre dans un environnement aussi exceptionnel, préserver, et on voit que finalement cette zone de montagne sert de refuge à la biodiversité, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui dans un contexte de réchauffement climatique où en fait les espèces ont plutôt tendance à venir se réfugier en montagne Ben alors, soit parce qu'en plaine l'habitat est trop dégradé, soit parce qu'il y a aussi la notion de réchauffement climatique avec des températures qui augmentent en plaine, ce qui fait que les animaux progressivement remontent en zone de montagne. Là on recherche des crottins, puisque le desvin c'est une espèce qui a été décrite très tardivement dans les années 1811. Donc c'est une espèce sur laquelle on a quand même une sacrée méconnaissance d'un point de vue de sa biologie, de son écologie. Et depuis, c'est réellement que depuis les années 2000-2010 que là l'État a mis des moyens et a lancé un plan national d'action pour la préservation du desvin. Et à ce moment-là, l'idée c'était de mettre en place des méthodes de suivi efficaces pour suivre l'espèce. C'est une espèce qui est principalement nocturne, une espèce qui est semi-aquatique, donc au final c'est très difficile à suivre, à voir et à suivre. Donc tout l'objet a été de mettre en place des techniques de suivi et donc c'est des techniques qu'on a expérimentées au niveau du parc national. On a tenté des méthodes de capture, donc poser des nasses, obstruer les cours d'eau, poser des nasses sur 500 mètres, essayer de capturer les desvins. Ça a eu marché par endroits, mais c'était très lourd à mettre en place. Donc au final, la technique qui ressort aujourd'hui, qui est la plus efficace, c'est le suivi et la recherche, le suivi par la recherche de crottes qu'on appelle fesses, que le desvin dépose sur les cailloux, à l'intérieur aussi des berges qui lui sert de gîte. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'est de rechercher ces petites crottes. Alors une crotte de desvin, c'est à peu près au max 2 cm de long, un diamètre de 3 à 5 mm. Donc vraiment, on recherche une aiguille dans une botte de foin, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas évident. Et avec la crotte est caractéristique du fait que c'est comme un tortillon, une agglomération de petites crottes, un tortillon avec une odeur très caractéristique de huile de lin, une odeur un peu mielleuse, une odeur assez douce au final. La crotte de desvin, finalement, ça sent bon. Une recherche visuelle, et une fois qu'on a identifié une crotte qui peut appartenir au desvin, l'idée c'est de sentir et de voir si on retrouve l'odeur caractéristique ou pas.
On rejoint avec la plus grande délicatesse par une prairie le cours d'eau où les gardiens du parc recherchent ces fameuses crottes afin de pouvoir évaluer la population du desvin. La petite taupe ou le petit rat trompette des torrents de la vallée des Gaves, malheureusement en voie de disparition. Alors on va essayer de retrouver, ils sont juste là en contrebas, nos gardiens du parc national des Pyrénées.
Pourquoi protéger le Desmond ou les rapaces sont-ils utiles pour l'humanité? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, les gens pensent que la technologie a la réponse à tout, que grâce à la technologie, on va se sortir du dérèglement climatique, etc. etc. Donc quelle est votre position par rapport à tout ça?
Ma position, c'est qu'en fait, le Desmond, c'est une espèce comme une autre. Alors peut-être une valeur peut-être plus importante, et elle est symbolique aussi pour nous les Pyrénéens, puisque c'est une espèce endémique de chez nous. Mais après, moi je vois même l'homme comme une espèce à part entière au sein d'un écosystème. Et donc pour moi, protéger le Desmond, ça a autant de valeur que préserver une autre espèce en tant qu'espèce, tout simplement. Et derrière, en préservant le Desmond, on préserve aussi un écosystème, puisqu'à travers les actions qu'on mène, l'air de rien, le Desmond c'est la tête d'affiche, mais toutes les actions qu'on mène, ça sert à préserver tout le milieu aquatique, et donc ça va profiter à tout le cortège des espèces qui fréquentent les milieux aquatiques.
Donc j'ai bien compris qu'en préservant donc la biodiversité, c'est aussi l'humanité que vous protégez.
Exactement. En fait, il faut replacer l'homme au sein, pour moi, d'un écosystème. L'homme, une espèce comme une autre. Je sais pas, tu as des trucs à dire, toi, Eric, là-dessus? Parce que je sais que ça, c'est Eric, c'est des choses qui le stimulent, ça.
Oui, je pense que le fait qu'on se distingue, qu'on cherche à se distinguer pour des motifs culturels, historiques, du reste du vivant, c'est probablement un leurre, hein. C'est quelque chose qui nous rassure, mais on a besoin d'eau, on a besoin de respirer, on a besoin de nourriture, et une bonne qualité d'eau pour un Desmond, parce qu'il marque des cours d'eau avec une bonne qualité d'eau, ça nous est essentiel pour nous, et surtout quand de l'eau, on en manque. Et après, il y a tout un aspect, au-delà de l'aspect écologique, l'aspect culturel, l'emblème qu'on peut avoir pour certaines espèces, des grosses espèces qui font partie de notre panthéon humain. Il n'y a qu'à voir le bouquetin depuis les débuts de l'humanité. Donc si ces espèces disparaissent, on va se retrouver bien seul à un moment. Et il faut qu'on soit en capacité de concevoir, comme disait Jérôme, la nature comme un tout, et qu'on fasse partie de ce tout. Qu'on ne se retrouve pas à terme avec des milieux hyper simples, où quel que soit le lieu où on va aller en voyage, on retrouvera les mêmes espèces parce que ce sont les plus résistantes. Au bout d'un moment, il ne restera plus que des scorpions et des rats d'égout, mais au moment où il ne restera plus que ces espèces-là, l'humanité aura probablement disparu, parce qu'on est quand même moins résistant qu'eux.
Tout à fait, je pense que le message est bien passé. Personnellement, la nature, au même titre qu'une œuvre d'art, est un objet culturel. Un peu comme disait Victor Hugo sur Gavarni, l'amphithéâtre de la nature. C'est un peu cela ta pensée aussi?
Pour moi, c'est une nécessité biologique, parce qu'on est des mammifères, spéciaux, certes, mais comme je disais, on a des besoins qui sont identiques à toutes les autres espèces. Donc on est des homéothermes, il faut qu'on équilibre notre chaleur, il faut qu'on ait des conditions. On a, même si on a une technologie qui nous permet de nous affranchir en partie d'un optimum écologique, on reste lié à ces milieux. Donc ça, c'est le premier aspect, on va dire l'aspect purement biologique, écologique de l'espèce humaine, puisqu'on peut dire qu'il y a une écologie de l'espèce humaine. On n'a pas la capacité, même avec un scaphandre autonome, de descendre à très forte profondeur dans un milieu marin. Il y a un moment où la pression va nous rappeler à l'ordre. Donc il y a un optimum écologique. Mais également, on a cet aspect culturel, où je pense qu'on a une espèce qui a besoin également de rêver, de mythes. Et le premier mythe de notre espèce, c'est la nature. Voilà. Sinon, on n'aurait pas peint des bouquetins ou des aurochs dans les grottes. Si on perd ça, on perd la raison d'être pratiquement de l'humanité. On a passé 300 000 ans en nature, et à peu près, on va dire, 300 ans à estimer être à l'extérieur de la nature. Thank you.
est-ce que parfois il vous arrive d'être découragé tout simplement par rapport à l'impact négatif des activités humaines, touristiques, industrielles, voilà?
Ben nous, notre rôle, notamment au Parc National, c'est d'être optimiste. Parce que sinon on n'est pas optimiste, qui le sera? Et donc c'est, notamment si on prend l'exemple du Desmar, une espèce très compliquée à suivre, on la voit quasi jamais, on trouve des indices de présence de manière très sporadique. Donc, tout l'objectif est de garder la foi, clairement. Et derrière aussi, c'est de sortir ces espèces-là de l'anonymat, puisque les gens, petit à petit, se déconnectent de la nature. Et donc, on a besoin de leur rappeler, notamment ici, dans les Enfants des Vallées, qu'ils ont un patrimoine exceptionnel, et le Desmar en fait partie. D'où l'enjeu, nous, de garder la foi, et derrière, après, de sensibiliser autour de nous.
Et toi, Eric ?
Pour moi, je partage totalement l'avis de Jérôme. Je dirais qu'on a une nécessité de faire connaître. On peut apprécier réellement ce qu'on est en capacité de connaître et de nommer. Donc il ne faut pas que ça soit dans un espèce d'embrouillamini où on déclare de manière péremptoire « oui, c'est beau, c'est déjà pas mal, il y a de l'émotion, mais il faut aller passer un cap et connaître ». Et c'est en ça que sert le parc national ou des espaces protégés. C'est faire toucher du doigt aux gens la complexité du vivant. Ça, c'est un point important. Et ensuite, pour nous, individus, au-delà du garde, ben, on est beaucoup à être père de famille. Donc oui, on a une nécessité d'être optimiste.
C'est un beau message. Soyons optimistes et surtout, écoutez la nature. Donc là, on est remonté plus en amont, parce que tu penses qu'on a plus de chances de trouver des crottes ?
Ben en fait, là, l'idée, c'est d'essayer de trouver le joli tronçon où on voit que l'habitat il est favorable au Desmar, pour essayer de trouver des crottes. Et on se dit que plus on monte, plus on se dirige vers la zone cœur du parc national, plus c'est préservé. Donc c'est pour ça qu'on essaie de maximiser les chances en remontant la vallée là et en essayant de faire des tronçons de 200 mètres un peu plus haut.
Ok, et alors bonne chance.
Merci.
La vallée par ailleurs est très fleurie. Elle longe donc ces torrents, enfin ce torrent d'eau claire et limpide où sont découpées des falaises abruptes qui tombent là au fond de ce vallon étroit. De part et d'autre de la route, des versants boisés entrecoupé de prairies, mais aussi de hauts pâturages revêtus d'un vert, je dirais presque fluorescent. me voici avec une crotte de loutre. Là, c'est la première fois que j'en vois. Alors, c'est un mélange d'écailles. Ça sent un peu le poisson. Et c'est un peu comme, comment dire, un tortillon qui ferait penser à de la réglisse. Ouais. Incroyable. Une crotte de loutre entre ses doigts. C'est un peu tenir le monde sauvage et pur de la nature. Tenir le monde sauvage entre son pouce et l'index. H1000 et vos oreilles pour l'écouter.
Et puis ce sentiment de beauté, c'est bon.
La question, c'est quelle valeur donner à la nature, à une espèce détruite, à un individu. Et ça, c'est une question à laquelle on a du mal à répondre. Donc, il y a la destruction en tant que telle de l'individu et tous les services écosystémiques que l'individu rend. Si on prend l'exemple du vautour, le vautour, il sert d'équarisseur naturel. Il rend un service au monde agricole, à l'homme en général, puisque du coup, il élimine les maladies et les bactéries via son rôle d'équarisseur. Mais au moment où il y a une destruction et un passage en justice, par exemple, derrière, la grosse difficulté, c'est quelle valeur a cette espèce, cet individu. Et c'est une question qu'on a sur laquelle on a du mal à trancher aujourd'hui.
Auditeur, combien ça vaut en vautour ? combien vaut un ver de terre, qui sont essentiels, beaucoup plus, enfin, aussi essentiels qu'un vautour. Réfléchissez à ça.
J'entends encore le vent du nord dans le feuillage du vieux chêne trop près de mon loyer. Comme un frisson dans les buissons semble le message qui vient du pays. Bien qu'éloigné du monde, je chante jour et nuit. Mon âme vagabonde jamais ne connaît la nuit. Car pour moi rien ne compte. Lorsque revient l'été, il faut que je remonte vers le sommet enchanté.
Radio.